Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23, dans Estelle Midi, avec Rémi Barre et Thierry Moreau, Fatima Benomar et Pierre Rondeau, avec vous, bien sûr, au 32-16 pour commenter le passage en force du jour. Et c'est celui, bien sûr, du gouvernement qui va utiliser le 49-3 pour faire passer sa réforme du budget 2023. Faute de majorité absolue, le gouvernement a choisi ce procédé plutôt que de passer par un vote à l'Assemblée, Rémi.
Oui, et ce recours au 49-3 est courant. La mesure est d'ailleurs inscrite dans la Constitution. Elle permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement. Pour faire simple, le recours au 49-3 entraîne la suspension immédiate de la discussion du projet de loi en cours. Le texte est considéré en fait comme adopté sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent. Et si la motion de censure est rejetée, bah plus de débat. C'est terminé. Depuis 1958 et la naissance de la 5e République, le 49-3 a été utilisé à 87 reprises. Oui. Le record, il est détenu haut la main par Michel Rocard. Il y a eu recours à 28 reprises entre 1988 et 1991. Suivent Raymond Barre, Jacques Chirac et Edith Cresson. Alors, ils sont loin. Ils sont à 8 reprises à chaque fois d'utilisation du 49-3. Et le dernier 49...
Edith Cresson, c'est en moins d'un an, hein, tout de même.
Oui, c'est ça. Oui, c'est en 8 ans, pas mal. Oui, c'est pas mal. Elle tenait une bonne moyenne. Le dernier 49-3 en date, on l'a peut-être oublié, tiens. Vous savez qu'on c'était?
La loi travail?
C'était Édouard Philippe en février 2020 au sujet du projet de loi retraite.
Oui.
On l'a oublié parce que le processus a été interrompu par la pandémie de Covid-19. Seul changement depuis 1958, il est taille quand même, hein, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, hors projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Bon là, on sera un projet de loi de finances, hein, mais l'article 49.3 ne peut être utilisé que sur un seul texte au cours d'une même session parlementaire. Avant cette révision, le gouvernement pouvait y avoir recours aussi
hors
souvent...
Budget.
Aussi, oui, hors budget.
En plus du budget.
Mais avant, il pouvait y avoir recours autant de fois qu'il le voulait et sur n'importe quel texte. Donc, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Donc, faut bien choisir quand même quand on utilise le 49-3.
Dégainer, oui.
Alors, ce recours au 49-3, est-ce que ça vous choque, Pierre Rondeau?
Alors oui, c'est choquant et parce que il faut revenir un petit peu de repères historiques. Il faut quand même rappeler que le 49-3, donc établi avec la constitution de la 5e République par le général de Gaulle en 58, dissocier le pouvoir exécutif du pouvoir législatif, avec le pouvoir exécutif du président élu sur un septennat et le pouvoir législatif de l'Assemblée et du Parlement sur un quinquennat sur 5 ans. Et cette différenciation entre le septennat et le quinquennat faisait que de fait on pouvait avoir, en tout cas il y avait des risques, qu'il y ait une forme de cohabitation entre un président élu d'un parti politique et un Parlement élu d'une opposition politique. Donc pour éviter le désordre parlementaire, le général de Gaulle avait acté l'idée de pouvoir à la fois dissoudre l'Assemblée et passer en force via un 49-3. Et ça s'était appliqué justement quand le Parlement n'avait pas une majorité acquise. Alors je pense notamment à François Hollande, qui n'avait pas une cohabitation mais qui avait une majorité faiblement acquise puisqu'il y avait eu les frondeurs. Il y avait une trentaine de députés PS qui avaient refusé de soutenir son projet de loi travail. Là ici, pour le cas de Macron, là où ça me choque d'autant plus, c'est qu'à l'ère du septennat, donc de l'acquisition totale d'un système présidentiel, où en théorie il est censé avoir obtenu et assez facilement la majorité qui n'a pas obtenu, en tout cas la majorité absolue, il passe en force auprès d'un 49-3, donc sans respecter le débat parlementaire, sans respecter en plus les amendements qui ont été votés à l'Assemblée. Je pense notamment à l'amendement.
Est-ce que le débat sert encore à quelque chose?
L'amendement
par exemple, l'ANUPS, quand bien même il reprendrait mot pour mot tout le programme de l'ANUPS, il voterait contre.
J'ai parlé du MoDem, qui est normalement un parti politique frère de la majorité présidentielle, qui a fait passer l'amendement de la taxe sur les super dividendes, donc qui a été voté par le Parlement, qui a été voté démocratiquement par l'Assemblée nationale avec le soutien du MoDem, qui sera
rejeté, et de certains députés Renaissance,
il sera rejeté par le projet final qui passera en force par le 49-3. Donc en plus de ne pas respecter le vote démocratique des électeurs, qui n'a pas accordé à Emmanuel Macron une majorité absolue à l'Assemblée, premier élément, le Parlement, en tout cas le gouvernement,
tu vas pas bloquer pendant 5 ans sur le budget 2023.
Tu peux en tout cas continuer à discuter, à débattre via le processus parlementaire et via le débat parlementaire en commission.
Tu sais très bien qu'il y a de l'obstruction.
Oui. Il y a de l'obstruction.
Il y a 3300 amendements pour l'instant.
Oui, mais en termes d'image, qu'un président qui sous l'ère du septennat aurait dû obtenir la majorité absolue,
Ta relecture de l'histoire, elle est un tout petit peu
faussée.
Mais non, tu cautionnes
que la Ve République,
tu cautionnes la que le Parlement qui est censé représenter le peuple ne soit pas entendu
non.
et qu'on passe en force pour un intérêt
cet outil.
De quelques-uns. Je te rappelle que
le
président Macron,
rien, tu le sais très
le
bien.
Président Macron yeah. a été élu, en tout cas au non. premier tour, il a récolté 25% des voix des votants. Avec un taux d'abstention extrêmement élevé.
Donc, non, tu dis ça, tous les autres partis ont obtenu moins. Donc, de toute façon.
Minorité, il représente.
Excuse-moi. Il est arrivé en tête.
Et on va faire. Oui, auprès d'une minorité.
Non, mais excuse-moi. Tu fais une relecture de l'histoire. Dans la Ve République, cet outil qui est dans la Constitution, donc qui est tout à fait utilisable par le gouvernement, il servait à quoi ? À éviter ce qui s'est passé sous la 4e, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui tenaient à peine quelques jours.
Exactement, éviter justement
donc,
ce désordre parlementaire.
C'est pour la stabilité des institutions. C'est pas seulement au cas où, au bout de son quinquennat, il a une majorité, etc. C'est pour la stabilité des institutions. Premier point. Deuxième point, excuse-moi, ça va mettre au moins, ça aura une vertu, c'est de mettre au pied du mur les oppositions. Est-ce que oui ou non, pour faire tomber un gouvernement, la NUPES est prête à allier ses voix au Rassemblement National, c'est-à-dire que l'opposition...
Mais la réponse est non.
La réponse est non. Donc c'est pour ça que cette vertu-là, elle va pouvoir faire tomber les masques.
Sur ce point-là, je te rejoins, effectivement, ça va faire tomber les masques et ça va montrer à quel point la NUPES fait de l'obstruction parlementaire. Mais sur la question du MoDem, qui a voté cet amendement sur les dividendes...
Là, tu parles d'un abonnement, d'un amendement précis.
Il y a eu un vote qui est passé majoritairement sur un amendement précis, effectivement. Oui. Au final, le gouvernement ne va pas l'intégrer dans son texte qu'il va faire passer en force par le 49-3, alors que le MoDem qui soutient le parti présidentiel a voté cet amendement.
Mais ils ont fait passer l'amendement du MoDem que le ticket resto passe de 11 à 13 euros. Donc,
c'est des négociations. Mais justement, ça remet au centre. Mais je suis désolé, Pierre. Ça remet au centre le travail parlementaire. Ça remet au centre le travail parlementaire.
Le MoDem, c'est pas la
J'ai envie d'entendre Fatima, qui n'a pas parlé, qui est étonnamment calme sur ce dossier. Fatima Benoma, je sens que le 49-3, c'est pas votre tasse de thé, vous.
Bah d'ailleurs, rappelons, c'est assez cocasse que quand il a été utilisé sous Hollande, donc pendant les votes de la loi travail, la loi El Khomri, donc c'était à chaque fois le Premier ministre à l'époque Manuel Valls qui le dégainait. Et puis quand il y a eu les élections présidentielles de 2017 et qu'il briguait la présidentiabilité dans les primaires de la gauche, il avait dit, moi en fait, en réfléchissant, moi je serais plutôt contre le 49-3, donc moi, président Manuel Valls, j'abolirais le 49-3. Et il me semble à l'époque d'ailleurs que Macron aussi prenait ça pour un certain archaïsme et voulait remettre le Parlement au centre.
Une majorité
donc
absolue.
Moi je pense que les débats ils servent à en fait redébattre sur le fond, c'est-à-dire que par exemple de trouver un espace pour démanteler un peu les fake news, notamment sur la réforme des retraites qui nous pend au nez, parce que l'argument majoritaire des retraites c'était, on avait entendu dire que c'était pour financer l'éducation, la santé, la transition énergétique. Là on a le texte qui écrit, page 9, qui écrit noir sur blanc, qu'en fait le gouvernement il fait cette loi pas du tout pour financer autre chose, c'est pour baisser les impôts aux entreprises. Donc il écrit noir sur blanc, les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l'évolution des dépenses permise grâce à la réforme des retraites. Cette maîtrise de la dépense permettra, sans remettre en cause l'objectif de normalisation des comptes publics, de poursuivre la stratégie de baisse des prélèvements obligatoires. Il sera poursuivi notamment avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, au moins, maintenant, on sait que c'était pas du tout sur un délire pour mettre de l'argent sur autre chose, sur le progrès, la santé, l'école, etc. C'est vraiment, il fait cette réforme, alors qu'on comprend pas puisque l'équilibre des comptes était déjà, voilà, pour faire baisser les entreprises.
C'est pas la même chose.
On sait pas encore s'ils vont dégainer le 49 fois sur la loi sécurité sociale, puisque là, il est dégainé sur le budget.
C'est pas la même chose, hein. Là, c'est le budget.
Donc, c'est pas la question.
Mais je peux t'assurer que sur la retraite, exactement. Donc là.
Mais non, parce qu'ils peuvent pas le dégainer plus d'une fois
par session parlementaire.
Ils pourront le faire. Mais on ne sait pas encore s'ils vont le faire sur la Sécu. D'abord parce qu'il y a des
pourparlers qui sont... la prochaine session parlementaire.
Exactement.
Dans
c'est ça. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, en fait, la manière dont ils dégainent à chaque fois le 49-3 permet, en fait, de débattre sur le fond.
C'est pour gagner du temps, parce que sinon tout va être bloqué. Là, les gens voient la situation du pays. Il y a un moment où.
On soit avec un Parlement.
Est-ce qu'on aurait entendu parler finalement
du budget
d'amender les taxes des super-dividendes s'il n'y avait pas eu en
fait. Oui, mais il y a aussi des amendements, tu sais très bien, où on change juste un mot et on accumule un nombre d'amendements parce que ça fait durer le plaisir, ça fait durer les débats et en attendant, les décisions ne sont pas prises. Le budget, il faut qu'il soit voté.
Alors, on est avec Jean-Marc qui nous appelle de Sarcelles. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Jean-Marc, est-ce que vous êtes choqué par l'utilisation du 49-3, vous ?
Vous connaissez une autre solution ?
Le débat.
Le débat parlementaire ?
Oui, le débat parlementaire.
Il a eu lieu.
Comme je viens de l'entendre, il y a des dizaines de milliers de commandes.
D'amendements
déposés. On discute. Et ça va aller jusqu'où ? Une entreprise privée, elle ne peut pas tourner sans budget. L'État, oui. L'État, c'est pareil. L'opposition, l'ensemble de l'opposition, RN et NUPES, a dit qu'elle ne voterait pas. Alors, on fait quoi? On continue à discuter et ça va nous emmener où? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'opposition va déposer une motion de censure qui sera pas adoptée. Et derrière, eh ben, effectivement, on dégaine le 49-3. Je ne dis pas que c'est un délit de démocratie, mais est-ce qu'il y a un autre choix? C'est la question que je me pose. Discuter jusqu'à quand? Ou alors, comme effectivement l'a dit un de vos invités, on se retrouve à l'époque de la 4e République, où les gouvernements tenaient 2 ou 3 jours.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Marc. Mais après, la question se pose aussi sur l'opposition qui souvent fait de l'opposition systématique. C'est ça. On sait très bien que, quelles que soient, je veux dire, les propositions là du gouvernement, ils seront contre, même si ça va dans leur sens. Et c'est ça le problème.
Pire, c'est qu'en plus, ils n'arrivent même pas eux-mêmes à s'entendre. Alors, vous me direz que c'est normal que la NUPES ne peut pas s'entendre avec le RN. Il n'y a pas de débat constructif entre eux, au-delà d'un débat avec directement la majorité. Mais quand j'entends, par exemple, le RN qui milite pour l'augmentation du SMIC, le RN n'a pas voté l'amendement, n'a pas soutenu l'amendement proposé et présenté par la NUPES pour augmenter le SMIC.
Tu apportes de l'eau à notre moulin. Je vais te donner un autre exemple. Si la NUPES avait dit dès le début que justement nous sommes prêts à voter le budget. Excuse-moi. Si la NUPES avait dit nous sommes prêts à voter le budget à condition que 50 amendements, 30 amendements, 20 amendements qui pour nous sont fondamentaux soient acceptés, il y a au moins une ouverture de discussion. Dès le début, la NUPES, comme le RN, ont dit on ne votera pas ce budget.
Soit, là-dessus, je te rejoins. Il y a vraiment une obstruction parlementaire. Là où je suis plus dubitatif et sceptique, c'est aussi vis-à-vis d'un véritable débat avec les Républicains ou le Modem, qui eux-mêmes proposent et soumettent des amendements qui sont votés ensuite en commission. Et même ces amendements votés en commission ne sont pas retenus pour le 49-3. C'est là où ça me pose problème.
Mais parce que pour exister, ils sont obligés de dire non. Et tu le sais très bien, Pierre. S'ils disent oui, ils n'existeront plus, on dira ils sont affiliés au Modem.
Un débat. Il y a eu un début de travail parlementaire au sein des commissions avec des votes des amendements qui certains étaient défendables, audibles et sont passés avec les votes des Républicains, les votes du Modem et certains parlementaires en marche. Au final, le 49-3, il va reprendre le texte à l'origine, il va faire du cas par cas, il va piocher.
Amendements vont être pris.
Oui, il va piocher dans ce qui l'intéresse et dans ce qui n'intéresse pas. Alors que certains amendements ont été votés par l'Assemblée. Il y a eu un parcours démocratique.
On voit bien la nature, on va dire par exemple, quand ils s'arc-boutent sur l'amendement dont on a parlé ou celui de l'aide sur les EHPAD, etc. Enfin, on voit bien aussi qu'il y a, de leur côté, ils pourraient au moins se dire que certains amendements, ils sont en fait, ils sont entendables, tout simplement. Donc je trouve que. On voit quand même qu'il y a un côté aussi du côté de la majorité de ne plus rien laisser passer et même de ne pas accepter les débats, même sur des choses qui, pour moi, relèvent quand même du minimum de justice sociale.
Oui, notamment les super profits, où il y a quand même beaucoup de partis qui l'ont voté. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. L'exécutif qui pourrait utiliser le 49-3, est-ce que c'est choquant, Rémi Barré?
Ce n'est pas choquant pour 64% des personnes qui se sont prononcées sur nos réseaux.
Ah, donc quand même belle majorité.